Calade, ma radio différente, curieuse et indépendante. Calade.
Allez, nous sommes à la salle de la Mutualité à Villefranche pour une conférence organisée par le collectif Palestine Villefranche 69. Une conférence qui va être animée par Pierre Stambul. Il est porte-parole de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. La conférence aura pour thème du projet sioniste au génocide à Gaza. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est un petit peu l'UJFP ?
Ben, notre association existe depuis 1994, donc 30 ans. Au début, c'était sur la position « pas de crime en notre nom ». Et puis très rapidement, les mots qu'il faut mettre sur cette guerre, occupation, colonisation, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, suprémacisme, c'est devenu pour nous une évidence. Nous sommes pour le boycott des investissements sanctions contre l'État d'Israël et un boycott total. Nous sommes une association juive antisioniste et antisioniste parce que juive, parce que nous savons que le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est une injure à notre histoire, à notre mémoire, à nos identités, et en plus c'est une idéologie pas seulement criminelle mais suicidaire. Et personnellement, je suis fils de résistants communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale, famille maternelle exterminée, père qui était le seul rescapé des 67 du groupe Manouchian qui ont été arrêtés en novembre 43. Il a été déporté à Buchenwald, mais il est revenu, sinon je ne serais pas là. Donc voilà, ma judaïté, c'est celle-là. On va le préciser aussi. J'ai été plusieurs fois en Palestine et deux fois à Gaza en 2013 et en 2016.
Est-ce qu'on peut rappeler, vous avez parlé de sionisme, si je voulais expliquer le sionisme à un petit frère ou une petite sœur, comment est-ce que...
Vaste programme. Bon, qu'est-ce que je dirais ce soir sur le sionisme ? C'est une réponse à l'antisémitisme, mais c'est la pire des réponses. C'est au départ une théorie de la séparation. C'est-à-dire, c'est une théorie qui dit que face à l'antisémitisme, la seule solution, c'est séparer les Juifs du reste de l'humanité. Donc c'est une théorie qui dit que Juifs et non-Juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif à construire. C'est un colonialisme dès le départ, mais c'est un colonialisme de remplacement qui ne vise pas à exploiter le peuple indigène, mais à le remplacer et à l'expulser. C'est un nationalisme, mais qui a inventé le peuple, la langue et la terre, parce qu'il n'y a pas de peuple juif. Dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif yéménite, c'est une construction historique. Et la langue, l'hébreu, était réservée à un usage strictement religieux. Et la terre, les juifs laïcs se battaient pour l'émancipation sur place. Et pour les juifs religieux, il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Le sionisme a prémédité 50 ans avant qu'il soit réalisé un nettoyage ethnique. Il a construit, dès le début du XXe siècle, toutes les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays. Et donc, la construction de l'État d'Israël, elle est faite là-dessus. Elle est faite sur un nettoyage ethnique prémédité. Et en plus, les Israéliens, dès le début, ont procédé par le déni. Les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Ça, c'est Ben-Gourion. Nous n'avons expulsé personne. Et toujours de Ben-Gourion, les vieux mourront, les jeunes oublieront. Et donc, c'était l'idée de réaliser le crime parfait, comme finalement les Blancs des États-Unis ou d'Australie avaient réalisé le crime parfait contre les peuples indigènes. Seulement, voilà, les Palestiniens, 800 000 ont été expulsés. Leurs descendants sont aujourd'hui des expulsés, hein, parce qu'il y a d'autres Palestiniens. Leurs descendants sont au nombre de 10 millions. 6 millions ont la carte de l'UNRWA. Et le crime fondateur, c'est celui-là. Et sur cette guerre-là, il ne peut pas y avoir de paix juste qui ne répare pas le crime fondateur de 1948.
L'UNRWA, vous pouvez me rappeler ce que c'est ?
Donc l'UNRWA, c'est l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés palestiniens, qui a été créé en principe de façon totalement provisoire au moment des armistices de 1949, et qui, 75 ans après, existe toujours, avec un vote qui date d'il y a quelques jours de la Knesset, le Parlement israélien, déclarant que l'UNRWA était illégale et que Israël interdirait toute activité de l'UNRWA dans tous les territoires qu'elle contrôle. Ce qui veut dire un peu là, quand on sait que l'UNRWA assure l'éducation, la santé et l'alimentation de 6 millions de personnes, on comprend ce que ça veut dire.
On a parlé donc du sionisme, il y a un deuxième mot dans le thème de cette conférence, c'est le génocide qui a lieu en ce moment à Gaza. C'est un mot que peu de médias utilisent malheureusement aujourd'hui.
Moi, comme issu de cette histoire-là, d'un génocide contre les Juifs, je dis que nier qu'il y ait un génocide à Gaza, j'appelle ça du négationnisme. Je suis extrêmement en colère à la fois contre nos dirigeants qui sont des complices absolus d'un crime qui a tué, on parle de 45 000 morts identifiés, mais il y a tous les gens qui sont sous les décombres, il y a tous les disparus. The Lancet parlait de 180 000 morts en juillet. Ouais. On est maintenant en novembre. Donc nier que ce soit un génocide, j'appelle ça du négationnisme. Et chez nous, les Juifs, le négationnisme, c'est une injure. Ce sont les gens qui ont nié ce que nous avons subi. Et voilà, je crois qu'il faut savoir en plus que les dirigeants israéliens ne sont pas les descendants des victimes du génocide nazi. Ils sont les descendants des collabos. Le père de Netanyahou était secrétaire de Jabotinsky, dont la milice, le Bétard, s'entraînait en Italie fasciste à la fin des années 30. C'est ça qu'on a aujourd'hui à la tête. Les méthodes qui sont utilisées, le langage qui a été utilisé pour justifier le meurtre des femmes et des enfants, c'est un langage de criminels invétérés. C'est-à-dire, ils ont en plus essayé d'instrumentaliser la religion là-dedans en comparant les Palestiniens aux Amalécites, parce que la Bible dit sur les Amalécites, tuez-les tous, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. On est en pleine barbarie. Les témoignages que nous recevons, nous, Union juive française pour la paix, tous les jours depuis Gaza, parce que depuis le 7 octobre, nous avons réussi à envoyer 350 000 euros à Gaza. Nos correspondants ont réussi, parce qu'on travaille avec eux depuis 8 ans, et ils arborent partout l'insigne Union juive française pour la paix dans Gaza. Ils réussissent à nourrir un assez grand nombre de camps. Il y a 3 repas par semaine qui sont organisés. Ils ont creusé des sanitaires, ils ont dressé des tentes. On rescolarise les enfants, on assure des ateliers de soutien psychologique. Et maintenant, dans les rares endroits où il y a encore des terres, les agriculteurs replantent. Tout ça, on le fait parce que le but des sionistes a toujours été que la société palestinienne disparaisse. Et nous, on lutte pour qu'elle ne disparaisse pas. Mais elle est victime d'un génocide. Nier ça, je dis, c'est une horreur. Mais j'ai une colère folle contre les médias officiels. Depuis le 7 octobre, ils ont systématiquement repris le langage des génocidaires. Ils portent une responsabilité majeure dans ce qui se passe. Je dis bien une responsabilité majeure. Vous n'êtes pas un journaliste officiel, mais vous le seriez. Il y en a quelques-uns à qui j'ai eu affaire. Je les agresse. Je leur dis, ce que vous faites aujourd'hui, c'est une infamie. Et vous aurez à en répondre. Parce que dans 20 ans, on se demandera comment le monde, comment les médias, comment nos gouvernants, comment les pseudo-intellectuels qui parlent au nom des Juifs et au tout, ont pu organiser ça, ont pu l'appuyer. Je peux citer 100 citations des gens qui parlent au nom du judaïsme en France. C'est une infamie, c'est une injure à notre histoire et à notre mémoire. Quand le grand rabbin Corsia a dit il faut qu'Israël finisse le travail, c'est une injure à tout ce que nous avons subi. Quand Alain Finkielkraut dit l'équipe de France n'est pas black, blanc, beurre, elle est black, et toute l'Europe se moque de nous par rapport à notre histoire antiraciste, c'est une injure totale. Quand J. William Goldnadel dit oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3, c'est encore une injure à notre histoire et à notre mémoire. Un jour, peut-être dans 20 ans, on se demandera comment le monde, la France, l'Europe ont pu déraper à ce point pour permettre un calvaire pareil pour les Palestiniens.
Je renvoie à une vidéo qui a été réalisée par Blast et qu'on peut trouver sur YouTube. Ils ont regardé pendant 2 semaines, je crois, la couverture de France 2 sur la situation à Gaza et comment ils en parlent et les outils de langage utilisés. Et ça correspond à ce que vous étiez en train de nous dire.
Et aujourd'hui, j'arrive en voiture de Paris. Donc je me tapais France Info sur l'autoradio toute la journée. C'était agression antisémite à Amsterdam. Je veux dire encore une fois, que ce soit le 7 octobre, que ce soit Amsterdam, ce ne sont pas les Juifs qui sont agressés. c'est l'occupant et ceux qui les soutiennent. Et ceux qui s'imaginent qu'ils vont soutenir les Juifs en soutenant un État criminel, non, ils mettent les Juifs en danger. Assimiler les Juifs à la politique criminelle israélienne, c'est mettre sciemment les Juifs en danger. Moi, je suis Juif, je me balade partout dans Marseille-Nord où j'habite, je suis connu, les gens me respectent, les gens approuvent, je me balade avec mon keffier. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons un devoir, en tant que Juifs, de dire « Nous sommes solidaires du peuple palestinien et ceux qui prétendent parler en notre nom sont des assassins. »
Vous avez parlé de l'importance du langage. Moi, j'ai trouvé que ce conflit mettait en avant l'importance des mots qui sont utilisés. Et on le voit bien dans les médias, le champ lexical qui est choisi pour parler d'un côté du Hamas et de l'autre de l'armée israélienne, il est totalement différent. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier un langage pour...
On vient de voir que Donald Trump se fait élire avec des éléments de langage qui franchissent encore un cap supplémentaire et que c'est quelque chose qui marche. On est à une période où l'information officielle étant totalement lacunaire, les réseaux sociaux versant souvent dans le complotisme, on a effectivement une espèce de dire. Moi, je n'ai rien d'autre, aucun autre moyen que le rationalisme, que dire les choses. Je ne suis pas historien, j'ai été prof de maths, mais je connais assez bien l'histoire de cette région, l'histoire de la Palestine, l'histoire des Juifs, et dire ce qui a été aujourd'hui par rapport au fatra d'ânerie qu'on entend. On n'a pas d'autre moyen. Mais je veux dire que on n'est pas la seule période de l'histoire où la pensée rationnelle a complètement été balayée par une pensée complètement loufoque, quoi. Et la plupart des drames de l'humanité, c'est à des moments où la pensée a dérivé complètement.
Vous allez expliquer quoi ce soir lors de la conférence? Vous allez essayer de transmettre quoi comme message?
Je sors en fait deux nouveaux livres. Il y en a un qui sort, ça y est, il est écrit, il est parti chez l'éditeur. Donc je pense que dans un mois, c'est dommage, il n'est pas ici. Et c'est le titre de la conférence, mais c'est le titre de mon prochain livre qui va s'appeler du projet sioniste au génocide. C'est-à-dire que je reprends, il y aura un autre livre collectif, celui-là, qui va sortir sur Gaza fin février, qui va s'appeler Gaza, mort, vie, espoir, et qui est moitié écrit par les solidaires qui, autour de l'UJFP, mais il n'y a pas que l'UJFP, assume la solidarité avec Gaza, et l'autre moitié, c'est la parole de nos correspondants gazaouis. Et on mettra une vingtaine de photos parmi les milliers de photos ou de vidéos qu'ils nous envoient. Mais dans mon livre dont je vais parler ce soir, je repars au départ. Je repars de l'histoire. Les sionistes disent, après 2000 ans d'exil, les Juifs rentrent chez eux. Je vais expliquer que c'est une légende complète. Les sionistes disent... Dieu a donné cette terre au peuple juif et donc ils impliquent la religion juive comme étant la responsable de ce qui se passe. J'ai expliqué que c'est une escroquerie et que la religion juive, jusqu'à 1960, était non sioniste ou antisioniste. J'ai longuement parlé de l'antisémitisme pour expliquer qu'on mélange tout. Il y a eu l'antijudaïsme chrétien, il y a eu l'antisémitisme racial. Ce à quoi on a affaire aujourd'hui, Edgar Morin appelle ça de l'anti-israélisme. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est surtout pas d'assimiler les Juifs aux sionistes et aux Israéliens. C'est évidemment de faire tout le contraire. Je vais démonter un certain nombre d'idées reçues. Beaucoup de gens croient que Israël, c'est le résultat du génocide nazi. J'expliquerai que non. Les institutions qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Et donc il s'agissait bien d'un nettoyage ethnique prémédité. Je vais parler de la Nakba, en plus à Gaza et en Cisjordanie, plusieurs très vieilles personnes me l'ont raconté. Donc j'ai plusieurs versions de la Nakba par ceux qui l'ont subi. Je vais parler des lois d'apartheid qui existent en Israël, pas depuis 2018, depuis 1948. Et puis je vais expliquer qu'il n'y a pas de gauche sioniste. Que tout ce qu'on appelle la gauche, Yitzhak Rabin, les accords d'Oslo, tout ça, c'est de la foutaise. Ils sont compromis dans tous les crimes contre les Palestiniens. Et que la droite sioniste, ce n'est pas une droite libérale ou conservatrice, comme souvent en Europe, c'est une droite fasciste dès les origines. Et que les méthodes qu'elle utilise aujourd'hui sont des méthodes fascistes, mais qui correspondent à l'idéologie qu'elle a toujours défendue depuis son apparition en 2020. Et la fin de mon exposé, ce sera sur Gaza. Je parlerai du Gaza avant le 7 octobre, que j'ai bien connu, puisque j'ai été deux fois à Gaza, du 7 octobre, de ce qui se passe maintenant. Et je terminerai sur comment en sortir. Et nous, à l'UJFP, ce qu'on dit, c'est que la seule solution, c'est d'en revenir au droit international, pas à l'ONU, au droit international. Le droit international, qu'est-ce qu'il dit pour les Palestiniens? Il dit trois choses. Liberté, égalité, justice. La liberté, donc la fin de l'occupation, de la colonisation, la fin du blocus de Gaza, le démantèlement du mur, la libération des prisonniers. Il dit l'égalité des droits pour tous les habitants de la région. Et il dit la justice, c'est-à-dire le retour des réfugiés palestiniens et le jugement des criminels de guerre. Netanyahou n'est pas seulement en train de commettre un génocide, avec la complicité des dirigeants occidentaux, ça va s'accélérer avec Trump. Il détruit tout ce qui peut rester du droit international. Et donc nous, on doit s'appuyer là-dessus. Il existe un assez grand nombre de textes qui ont été reconnus par une grande majorité des pays, même s'ils ne sont pas appliqués, qui sont des textes d'égalité, de droit. Et c'est sur cette base-là qu'il y aura une paix et pas une autre. Et que, par exemple, une paix qui oublierait les réfugiés palestiniens n'est pas une paix. Une paix qui entérinerait les visées. Israël ne serait pas une paix. Et si je vais au bout de ma pensée, il ne peut pas y avoir de paix avec le sionisme et avec l'État juif. Un État qui n'est pas l'État de tous ses citoyens, c'est incorrect au niveau du droit international. Je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qui a permis aux Blancs sud-africains de rester? C'est l'abolition de l'apartheid, c'est pas le maintien de l'apartheid. Qu'est-ce qui permettra aux Juifs israéliens de rester? C'est la fin du sionisme et de l'État juif, et c'est de vivre ensemble dans l'égalité des droits.
Prenons le temps d'en parler. Prenons le temps d'écouter. Calade. Ma radio.
Il est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza.
Que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il
vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire.
Que ma mort devienne une histoire.
Thank you.